Donc, nous avons aujourd'hui M. Jean-François Labelle, docteur Labelle, directeur des services professionnels et de l'enseignement universitaire, qui a accepté de nous parler de cette pénurie actuelle qui sévit un peu partout dans les urgences de la Côte-Nord, mais entre autres aux Escoumins. Les Escoumins ont eu un arrêt, en fait, a dû fermer la nuit de 20 h à 8 h le matin du 16 au 22 août. L'urgence avait fermé aussi 2 nuits avant, pendant l'été. Merci, M. Labelle, d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette pénurie-là.
Ça fait plaisir.
Et justement, on va peut-être commencer tout de suite dans le sujet à se demander pourquoi, c'est quoi les causes exactes de cette pénurie qui sévit quand on doit obligatoirement fermer les services d'une urgence?
Bon, la première cause est vraiment la quantité limitée de personnel infirmier qu'on a sur notre territoire. C'est pas nouveau de cette année. On est régulièrement en pénurie de personnel depuis des années sur tout le territoire de la Côte-Nord. Les régions éloignées au Québec sont aux prises avec cette réalité-là. C'est clair que la pandémie a épuisé quand même aussi beaucoup de personnel et qu'il y a eu des départs aussi dans cette période-là. Donc, ça l'a empirer le tableau de la pénurie d'effectifs. Et puis, quand on a des petites équipes dans des milieux plus petits, ben un départ a encore plus d'impact que dans une grande équipe. Donc, on le ressent encore plus rapidement dans les milieux plus petits en périphérie. Donc, on le voit cette année, Port-Cartier, les Escoumins, dans nos dispensaires en périphérie, sur la Basse-Côte-Nord, on a plus de difficultés parce que justement, la pénurie est plus tangible et plus visible à ce moment-là. L'autre chose qui nous a affecté beaucoup, c'est les nouvelles règles aussi d'encadrement du recours à la main-d'œuvre indépendante, aux infirmières d'agence qui viennent nous aider. Ces balises-là sont venues nous donner des contraintes qui n'étaient pas existantes les années précédentes et qui ont causé bien des maux pour nous permettre d'avoir du soutien supplémentaire à nos équipes. Donc, on se retrouve avec un soutien qui est plus limité. Puis la dernière des choses, bien, on est en été, puis notre personnel prend ses vacances, puis c'est bien mérité, puis on ne veut pas les empêcher de prendre leurs vacances. Mais il faut aussi comprendre que les gens qui viennent des agences, eux aussi prennent des vacances dans la même période. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit les creux de vague et qu'on se retrouve dans des positions où on n'a plus d'accès à aucune ressource. Il a fallu fermer plusieurs services à plusieurs endroits pour être en mesure de garder des salles d'urgence ouvertes, entre autres à Sept-Îles, à Baie-Comeau cet été. C'est ouvert, mais on a coupé plein de services autour pour être en mesure de maintenir ces services-là. Et comme on n'a pas autant de services connexes dans les petits milieux en périphérie, bien, on ne peut pas dire on va couper d'autres services parce qu'on n'a pas plus accès à cette main-d'œuvre-là. Donc, ça demeure un enjeu très, très lié à la limite de nos effectifs là, dans ces milieux-là.
Tout à fait. Et il faut dire aussi que justement, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé méritent totalement leurs vacances avec ce qu'ils ont vécu dans la dernière année et demie. Vous avez parlé aussi d'effectifs quand vous faites affaire avec des agences. Il y a des contraintes qui sont ajoutées. Est-ce que ces contraintes-là vont peut-être être revues justement pour essayer d'aider à ne plus complètement arrêter des services?
Bon, les premières versions des arrêtés ministériels qui sont sortis au printemps étaient encore plus catastrophiques que ceux qui sont appliqués présentement. Avec les représentations des régions comme la Côte-Nord, la Gaspésie, l'Abitibi, on a réussi à faire modifier les arrêtés initiaux parce que, on aurait eu encore des conditions encore pires et moins d'accès encore à de la main-d'œuvre indépendante. On a déjà réussi à faire modifier beaucoup de conditions. On travaille encore pour essayer d'avoir certaines dérogations qui vont nous permettre d'être en mesure d'avoir accès à d'autres personnes qui pourraient venir nous aider. Actuellement, l'exemple le plus facile, c'est que les gens doivent être disponibles 14 jours pour pouvoir venir nous aider, alors qu'on a des gens qui seraient capables de venir des fois 7 jours ou 5 jours. Et là, on ne peut pas avoir recours à eux parce qu'on est illégal si on tente de contourner l'arrêté ministériel qui exige un minimum de 14 jours de disponibilité. Donc, on négocie actuellement pour essayer d'assouplir cette règle-là. Ça nous permettrait probablement, dans plusieurs des cas où il y a eu des fermetures cet été, de réussir à maintenir le service ouvert, souvent in extremis, avec des équipes qui vont nous donner des prestations très, très importantes. On surcharge nos équipes, mais on réussit à maintenir le service. On est hyper reconnaissant du travail de nos infirmières sur le plancher, puis de notre autre personnel de soutien, que ce soit nos préposés, tout ça, tous les gens qui sont sur le plancher font un énorme travail et travaillent à maintenir le service à bout de bras pour la population. On est hyper conscient de tous les efforts qu'ils font, puis ils méritent effectivement de prendre leurs vacances. Mais malheureusement, à un moment donné, on ne peut pas les épuiser au point de dire « vous ne partirez pas et on va maintenir le service ouvert ». Donc, on se retrouve avec la contrainte de fermer à ce moment-là.
Quand il y a une fermeture, comme exemple aux Escoumins, le CIS explique tout de même que s'il y a urgence vitale, il y a un médecin et une infirmière qui sont sur place pour prendre en charge cette urgence-là. Est-ce que ça fait en sorte que ces gens-là, ils sont déjà à l'hôpital et ils vont justement descendre à l'urgence, mais évidemment, ça pourrait faire en sorte que d'autres gens sur d'autres étages doivent attendre?
En fait, c'est que normalement, pour maintenir une urgence ouverte, il faut avoir plus d'infirmières qu'une seule infirmière sur place. Le médecin qui est là va pouvoir donner des soins à l'étage, à l'hospitalisation et tout ça, mais son principal travail, ça demeure de couvrir l'urgence s'il arrive une vraie urgence en pleine nuit. Donc, la présence du médecin qui est là, la présence de l'infirmière qui est là est vraiment dédiée à absorber une grande urgence qui arriverait pendant la nuit. Dans ce contexte-là, ces gens-là sont complètement disponibles pour la clientèle qui arriverait avec une condition vitale importante à gérer. Le reste du temps, bien, les autres cas qui sont en mesure d'attendre vont être évalués puis redistribués au lendemain ou redirigés vers un autre centre, que ce soit Forestville ou Baie-Comeau, en raison de la lourdeur de leur cas.
Tout à fait. Puis, pour terminer, vous avez parlé justement de peut-être d'avoir des dérogations pour les agences, pour des personnes qui pourraient venir travailler. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Ce serait quoi les solutions pour pas que ça puisse se reproduire l'an prochain?
Bon, la principale solution qui est dans notre pouvoir, là, c'est de recruter plus d'infirmières, de trouver un moyen de consolider nos équipes. Ça demeure un peu complexe dans le sens où on n'a pas la liberté de déterminer les conditions de travail. Les conditions de travail sont toujours déterminées par des conventions qui sont nationales. Donc, on ne peut pas dire on va favoriser en donnant un peu plus pour recruter. Mais on a fait une belle campagne cette année de recrutement. On a réussi à recruter quand même, malgré la pandémie, malgré la pénurie, près de 16 infirmières supplémentaires pendant les derniers mois. Ce qui est quand même exceptionnel dans le contexte où on est vraiment dans une situation difficile. C'est encore un très petit chiffre, mais on a l'intention de tout faire pour le faire hausser encore, qu'il soit plus grand et que nos équipes s'améliorent aussi. On essaie aussi de réviser à l'interne nos façons de faire pour libérer le plus d'infirmières possible pour qu'elles soient aux soins des patients et non à faire des tâches administratives. L'autre chose qu'on espère très bientôt, c'est que les règles de la CNSST et de l'INSPQ concernant nos infirmières qui sont retirées du travail en raison de la COVID parce qu'elles sont enceintes, qu'elles puissent réintégrer les milieux de travail rapidement. On sait qu'actuellement, ces gens-là ne sont pas enfermés dans leur maison à rien faire. Ils circulent en ville, ils voient d'autres gens, ils vont en vacances, ils vont dans les régions plus chaudes que la Côte-Nord. Et on pense que ces gens-là seraient en mesure de donner des soins et de venir sauver des équipes. On sait qu'il y a des endroits, on a des équipes d'à peu près 18 infirmières et puis il y en a 5 sur ces équipes-là qui sont en congé, qui sont retirées pour le problème de maternité, de COVID conjointement, mais qui seraient aptes à travailler sur le plancher. Si on avait 5 infirmières de plus sur une équipe de 18, c'est certain qu'on ne serait pas proche de la rupture puis qu'on serait en mesure d'offrir des services plus stables. Donc, on travaille aussi conjointement avec les gens de la santé publique pour essayer d'obtenir cet assouplissement-là là, avec les preuves qu'on a, la vaccination des gens. On pense que ces gens-là sont en sécurité en venant travailler dans nos zones froides. On ne ferait pas exprès pour les exposer, mais on pense que ça serait vraiment bien puis ça pourrait permettre aux équipes là, d'être plus stables, mais aussi à la population de recevoir plus de soins.
Tout à fait. Merci beaucoup pour votre temps.
Ça fait vraiment plaisir. Bonne fin de journée.
Merci.